carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Le musée face aux expositions. Les expositions vident-elles les musées ? Pierre Rosenberg de l'Académie française, président-directeur honoraire du musée du Louvre, est de retour dans le studio de Canal Académie pour prendre position sur cette question. Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre fidélité et merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. Il s'agit donc de nous éclairer sur ce sujet qui nous paraît vraiment insuffisamment abordé par les médias. Le grand public considère volontiers que l'art, en particulier la peinture, n'a jamais connu plus grand succès populaire qu'à notre époque. On en veut pour preuve les files d'attente devant les expositions des grandes figures de l'histoire de l'art. Elles ne cessent de s'allonger jusqu'à décourager certaines bonnes volontés. En même temps, qu'en est-il des salles de nos musées ? Vous regrettez, Pierre Rosenberg, de les trouver aussi vides. Et que dire de ce paradoxe et comment l'interpréter ?
Oh là, vous abordez une énorme question. Je suis un peu gêné d'y répondre pour une raison assez simple. C'est que je vais être obligé de dire un peu de mal des expositions. Pas de toutes, bien entendu, mais des expositions d'une manière plus générale. Alors que j'ai adoré en faire, j'en ai fait beaucoup. J'ai écrit beaucoup de catalogues d'expositions. Donc je vais sans doute donner un petit peu le sentiment, et c'est un effet très fâcheux que si ce sentiment persiste, de cracher dans la soupe. C'est vraiment pas mon intention. Je vais simplement essayer d'expliquer une situation qui me paraît en effet à la fois intéressante à analyser, mais en fait très dangereuse si elle devait se perpétuer, se développer. Quel est le problème ? En effet, les gens vont voir des expositions, font la queue devant des expositions, s'intéressent aux expositions, voyagent pour voir des expositions, mais ne voyagent plus pour voir des musées, sauf s'ils sont construits récemment. Et ce phénomène, en soi, qui peut paraître très heureux, a des, bien sûr, des aspects très positifs, mais aussi entraîne avec lui des dangers qu'il faut un petit peu souligner. Alors, les expositions, il y en a trop, ça tout le monde est d'accord sur ce point. Personne, même à Paris, par exemple, peut prétendre aller voir toutes. Il y en a des dizaines, moi-même j'en rate beaucoup et de bonnes. Il y en a trop de par le monde. On n'a plus le temps de les voir toutes et de sélectionner les bonnes par rapport aux moins bonnes. Il y en a trop dans le monde et là non plus on ne peut pas voyager tout le temps pour les voir. Les sujets s'épuisent, elles-mêmes deviennent une sorte de marché. On fait des expositions parfois scientifiquement sans aucun mérite, simplement pour attirer du monde et faire du chiffre aussi bien financièrement que du nombre de visiteurs. On sait les titres qui fonctionnent, tout ce qui traite de l'impressionnisme, tout ce qui traite de l'Égypte, tout ce qui traite de l'or. L'exposition, à mon avis, qu'il faudrait faire, dont on serait sûr du succès, ce serait l'or de Van Gogh, par exemple, ça, on peut être sûr que ça plairait. Mais enfin, voilà. Et on oublie un petit peu qu'une exposition fait courir aux œuvres des risques, que les tableaux sont fragiles, et surtout on oublie qu'une exposition n'a de sens que si elle survit par son catalogue. Une exposition, une fois terminée, dont le catalogue n'est plus jamais feuilleté par le grand public et n'est plus jamais utilisé par les scientifiques, est une exposition qu'on n'aurait pas dû faire. Une exposition n'a de sens, vu les risques qu'elle fait courir aux œuvres, que si elle permet un progrès de cette discipline qu'on appelle l'histoire de l'art. Un progrès, il faut s'expliquer un instant sur ce mot. Il n'y a évidemment pas progrès en art. Personne n'a jamais prétendu que Picasso c'était mieux que Géricault c'était mieux que Caravage c'était mieux que Giotto. Il n'y a pas de progrès en art, il y a des grands artistes, il n'y a pas de progrès.
Alors évolue, de... mais il y a
oui,
des
absolument,
vagues.
Il y a des, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Alors qu'au contraire, la discipline qu'on appelle l'histoire de l'art, elle progresse. On en sait aujourd'hui beaucoup plus sur Poussin qu'il y a 50 ans, on en sait aujourd'hui beaucoup plus sur Caravage qu'il y a 50 ans. On a découvert des documents d'archives, on a découvert des œuvres, on sait comment elles sont parvenues jusqu'à nous, qui les a possédées, pourquoi il les a achetés, à quel prix il les a achetés. On sait beaucoup de choses aujourd'hui sur cette discipline, sur ces œuvres d'art, et ceci grâce à cette discipline qu'on appelle l'histoire de l'art. Donc, une exposition, c'est l'occasion de faire des progrès, de permettre des progrès dans la discipline. Et si la discipline a fait des progrès considérables depuis maintenant, disons-le, un demi-siècle, c'est en grande partie grâce aux expositions. Et grâce aux expositions, et ceci pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est le catalogue qui réunit toutes les informations possibles et imaginables sur un artiste, sur une période, etc., etc. Donc les catalogues, qui sont le fruit d'un travail parfois considérable, très important, sont en effet une des raisons du progrès de la discipline. Mais il y a une autre raison, qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'une exposition, je parle des expositions monographiques, celles dont je suis le plus familier, réunit les œuvres d'un artiste, d'une manière que l'artiste lui-même n'a jamais pu voir. L'artiste lui-même, il a vendu ses tableaux au cours des temps, etc. Subitement, on réunit sa vie. les œuvres qu'il a peintes à 20, à 30, à 40, à 50 ans. Et on peut porter sur cet artiste, grâce à cette réunion, un jugement que les œuvres isolées ne permettaient pas de porter. Il y a des artistes qui progressent, qui réfléchissent, qui changent d'idée, qui ont une véritable conception de la peinture, qui évolue avec leur âge ou avec leurs idées. Et il y en a d'autres, au contraire, qui se répètent machinalement. Il y a des artistes célèbres qui n'ont pas, je peux vous en citer si vous le voulez, il y a des artistes célèbres qu'une exposition a plus ou moins démoli, j'ose pas le dire, mais enfin réduit.
Ah bon ?
Oui, véritablement.
Donc
je prends un exemple
d'un grand artiste,
bolognais qui est dans tous les musées, qui est un grand peintre, évidemment, le Guerchin, Guercino. Ce peintre qui a été très célèbre, qui l'est encore et qui mérite de l'être, les expositions monographiques qu'on lui a consacrées ont montré qu'il se répétait, qu'il manquait d'imagination, qu'il avait trouvé une formule qui répétait, qu'il multipliait sans pouvoir se renouveler.
Alors que dispersé dans les différents musées.
Oui, on ne s'en rendait pas compte.
Ouais.
Alors que là, on s'en rend compte. Et il y a d'autres artistes, on met leurs œuvres ensemble et on s'aperçoit qu'au contraire, il n'y a pas deux tableaux qui se ressemblent. Chaque œuvre est une réflexion nouvelle où l'on aborde un nouveau sujet avec d'autres idées, etc., etc. Il y a des artistes qui ont été grandis considérablement par les expositions. Je prends un autre exemple bolognais, puisqu'on est dans Bologne, Guerchin, c'est Guidorini, peintre qui a une réputation comparable. Chaque fois qu'on a réuni les œuvres de Guidorini, on s'est aperçu que l'artiste avait une stature, une ambition que le Guerchin n'avait pas. Je ne parle pas des très grands peintres où, en effet, on s'aperçoit que réunir leurs œuvres est chaque fois un émerveillement, que ce soit Matisse ou que ce soit Poussin, je ne sais pas. Donc les expositions sont très utiles. Je répète, elles sont trop nombreuses, elles sont à la mode. Et le résultat de cette mode, c'est que les gens ne voyagent plus que pour voir des expositions ou ne visitent plus les musées que pour voir des expositions. Il suffit de transférer les coraux du Louvre dans une salle d'exposition et dans un musée, alors où vous voulez, et d'appeler ça une exposition coraux, les susdits coraux que personne ne va voir au Louvre, il y a subitement 100 000 visiteurs qui les voient, c'est les mêmes tableaux. Donc, il y a un phénomène de mode, voilà.
Je me permets quand même de dire que les expositions donnent très souvent lieu aussi de redécouvrir un peintre, comme je pense à Louis Cretet que vous avez...
Oui, ou bien Georges Latour.
Organisé.
Oui, Georges Latour est l'exemple, c'est le triomphe de l'histoire de l'art, bien sûr, on l'a souvent dit, puisque sans les historiens d'art, Georges Latour n'existerait pas. Oui. Il n'existerait pas non plus sans les expositions, celles de 1934, celles de 1972, celles de 1999, qui ont été les trois grandes étapes de la redécouverte de cet immense peintre qu'est Georges Latour. Mais, après avoir fait cet éloge des expositions, et je répète, sans vouloir cracher dans la soupe, car j'en ai fait beaucoup, y compris d'ailleurs un petit peu les deux dernières expositions de Georges Latour qui étaient mentionnées plus haut, entre autres, il faut se dire que le résultat de cette mode, de ce phénomène populaire, est que les gens ne visitent plus les musées.
Et comment faire pour que les gens qui ont visiblement un grand intérêt pour découvrir l'univers d'un peintre retournent voir les salles dans les musées?
C'est la grande question. Parce que si vous voulez, on dit toujours 8,5 millions ou 9, je ne sais plus, de visiteurs par an au Louvre. Et c'est vrai que c'est un chiffre assez impressionnant, très impressionnant. Mais ce ne sont pas des visiteurs, ce sont des touristes. Les visiteurs dans les musées, il y en a de moins en moins. Le nombre de musées que j'ai visités, et je ne suis pas seul à avoir fait cette constatation, vide et considérable, d'immenses musées vides, je dis bien vides, que ce soit Berlin, et alors au Louvre même, je parle même, puisque vous en parliez, au Louvre, bien sûr, il y a tous ces visiteurs pour voir la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, l'Esclave de Michel-Ange. Mais si vous allez dans les salles de la peinture française du second étage, elles sont vides. Et ce sont aussi les salles de Rembrandt. Donc, si vous voulez, même au Louvre, on ne peut pas dire que, malgré ces chiffres impressionnants et dont il faut se féliciter, même le Louvre est vide, contrairement à ce que... C'est un peu une provocation de dire ça.
Que peut-on faire pour améliorer la situation, pour faire prendre conscience au public qui va donc voir les expositions, pour redécouvrir cette énorme émotion qu'on a à découvrir un musée,
ben oui.
Aller à Londres, à Vienne, à Madrid, à Paris, bien sûr.
C'est une grande question.
Parlé. Ou à Athènes, le musée archéologique, c'est-à-dire découvrir un musée avec cette collection immense de beauté, d'objets rares, précieux, c'est inégalable. Dans une exposition, même si vous avez l'impression d'un énorme enrichissement immédiat, vous n'avez jamais, enfin il me semble, d'après ma propre expérience, cette même émotion de découvrir un musée.
Vous avez tout dit. Je veux dire que cette émotion des musées, je trouve moi aussi qu'elle est inégalable. Mais aujourd'hui, on ne la ressent plus. C'était le cas au XIXe siècle. Les musées avaient en effet cette priorité. Il n'y avait pas d'exposition à l'époque, ou très peu. Donc c'est vrai. Et ça s'est perdu. Alors je crois qu'il faut quand même préciser une ou deux choses. Premièrement, les musées sont difficiles. Je veux dire par là, une exposition, on vous mâche un peu la besogne. Et c'est très bien que ce soit ainsi. Les musées, aujourd'hui, où plus personne n'a lu la Bible, où personne ne connaît les grands textes de l'Antiquité grecque, les musées font peur. Ils sont difficiles. L'absence d'une éducation, je n'ai pas encore parlé d'éducation artistique, mais ça va venir, vous en doutez. L'absence d'une éducation générale, que ce soit dans le domaine de la Bible ou que ce soit dans le domaine de la mythologie, fait que les musées ne sont pas faciles d'abord. En plus, ils sont très grands, souvent. Les œuvres sont là, l'une à côté de l'autre, sans qu'on sache par quel hasard elles sont rassemblées, parce qu'elles sont rassemblées un peu par le hasard de l'histoire. Donc, si vous voulez, le musée fait peur, il est difficile, il ne se livre pas de lui-même, l'effort n'est pas toujours fait pour le rendre plus accessible. Donc, il faut comprendre que le musée attire moins que l'exposition, pour toutes sortes de raisons. Et alors là, naturellement, je ne vais pas faire autrement que de dire que si ces musées sont moins visités, et si, et je viendrai tout à l'heure aux conséquences que cela peut avoir, qui peuvent être dramatiques, si ces musées sont moins visités, c'est tout simplement que les visiteurs des musées n'ont pas reçu l'éducation qui leur permet d'être à l'aise dans les musées.
Et on revient
au sujet essentiel, l'absence d'éducation.
Voilà. De l'histoire de l'art, qui était donc l'objet d'une autre émission que nous avons faite ensemble.
Absolument. Donc c'est l'enseignement de l'histoire de l'art dans les lycées qui permettra de vaincre cette peur que les gens ont quand ils visitent les musées. Alors, désaffection des musées, qui est générale, qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve en France, dans les musées de province, qu'on trouve dans les grands musées un peu partout dans le monde. Je ne sais pas qui me disait l'autre jour, revenant de Berlin, où il y a eu récemment une très importante et magnifique exposition consacrée aux portraits italiens à la Renaissance, en sculpture et en peinture, que d'un côté, l'exposition était pleine, et que d'autre part, la Gemälde Galerie, qui est une des plus belles collections de peinture du monde, était vide. Mmh. Je ne sais pas qui me disait ça, mais c'était évident. Et vous avez ça partout, de par le monde. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Car c'est ça la vraie question, qu'après tout, on se lamente que les musées soient vides et que les expositions soient pleines. C'est très joli, mais en fait, c'est embêtant, c'est triste, c'est désolant, parce que les musées sont magnifiques. C'est une des grandes inventions de la civilisation, les musées, incontestablement. Mais les conséquences peuvent être lourdes. Pourquoi des mécènes aux États-Unis ou en France, une municipalité, donnerait-elle de l'argent pour les restaurations, pour les acquisitions, pour les publications, pour un musée vide? Donc oui, je crains, si vous voulez, que l'engouement pour les expositions, la désaffection pour les musées, soit néfaste pour l'avenir des musées. C'est-à-dire que les musées peuvent souffrir dans le futur de cette désaffection des musées qui privilégient les expositions, peuvent souffrir pour leurs acquisitions. Un musée qui ne s'enrichit pas est un musée qui meurt. Pour leurs publications, qui sont l'essence même d'un musée. Un musée doit maintenir une activité scientifique, c'est sa fonction. Pour ses restaurations, les œuvres d'art ont besoin d'être soignées. Et c'est ça que je crains, c'est que cette désaffection n'incite pas les mécènes aux États-Unis, puisque les musées y sont privés, n'incite pas les autorités responsables des musées en France ou en Europe, qui eux, dans les musées sont publics cette fois-ci, à continuer à les soutenir financièrement. C'est ça que je crains. Et c'est ça qui me fait un peu peur et qui mériterait, à mon avis, une véritable réflexion international, des responsables des musées, jeunes ou pas jeunes, pour que justement on s'interroge sur les moyens de combattre cette désaffection.
Oui, parce que quand on pense à l'histoire de la création des musées, disons par exemple à partir du XVIIIe siècle, même avant, enfin la constitution des collections des grands mécènes de la Renaissance, les Médicis ou les Est de Ferrare, etc., l'Église, jusqu'à Dominique Vivant Denon, avec son fameux musée Napoléon qui est devenu le Louvre, c'était donc des puissances financières qui ont constitué leur patrimoine, leur collection et qui ont été léguées au musée. Aujourd'hui, les temps ont totalement changé. Comment remédier à ce déclin?
Oui, oui. Mais l'histoire des musées est récente. Et oui, vous avez raison de rappeler les mécènes de la Renaissance, c'est sûr. Ce n'est pas franchement des musées. Là. Le concept du musée, bien sûr, on le voit se faire au XVIIIe siècle.
Oui, je voulais dire la collection déjà.
Voilà. L'idée du musée, proprement dit, c'est le musée Napoléon quand même, qui a été le premier musée ouvert à tous, où l'idée était de non seulement de présenter de belles œuvres, c'est-à-dire la délectation, mais l'idée était aussi d'instruire. Le musée Napoléon montrait l'histoire de la peinture des origines à nos jours, si je veux dire au jour de Napoléon, bien sûr, et elle le montrait chronologiquement. Je rappelle que le musée Napoléon a montré des primitifs italiens à une époque où tout le monde les méprisait. Il les montrait, non pas qu'on les trouvait beaux, sans doute les trouvait-on au contraire très laids, mais on estimait que c'était les débuts de la peinture. Donc il fallait montrer des échantillons de ce qu'étaient les débuts de la peinture. Et si ces tableaux, quelques-uns, sont restés au Louvre à la chute de Napoléon, c'est tout simplement qu'on les estimait si laids ou si peu intéressants qu'on pensait que ça valait pas la peine de les réexpédier dans leur lieu d'origine. On en était là. Donc si vous voulez, le musée avait cette double fonction. C'était à la fois la délectation, je me répète, la beauté, le plaisir esthétique, l'évasion, si vous voulez, devant le rêve devant l'œuvre d'art, mais aussi d'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, les musées devraient avoir cette double fonction toujours. Et le rôle éducatif des musées, il est un peu perdu de vue. Et c'est vrai que ce sont les expositions qui l'ont un peu pris en main, ce rôle éducatif. Mais elles ne le font que pour les sujets qu'elles traitent, les expositions. Donc, les musées sont un peu en perte de vitesse après avoir été une des grandes inventions du 19e siècle. Parce que justement, on n'a pas toujours encore trouvé la formule qui pourrait les rendre tout aussi attractifs qu'ils ne l'étaient au XIXe siècle.
N'y avait-il pas aussi une notion de sacré qui était liée à l'art en général, la collection d'objets précieux
C'est la phrase de Malraux. Enfin, les musées, ce sont les cathédrales du XIXe siècle. Les musées ont remplacé les cathédrales, plus ou moins. C'est vrai. On y entre encore en ce moment un petit peu religieusement, c'est vrai. Mais oui, on peut dire ça sacré, on peut dire ça. Pour moi, un musée, bien sûr, ce sont les œuvres qu'il contient, mais c'est beaucoup une évasion, une manière d'oublier le quotidien. Donc, si vous voulez, il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. Ce qu'il y a de plus beau dans un musée, ce sont ses fenêtres, comme disait Bonnard.
Oui.
Et c'est vrai qu'au Louvre, les fenêtres sont très importantes.
Les spécialistes des fenêtres.
Oui. Les vues du Louvre comptent aussi.
Oui, vous avez mentionné André Malraux avec... J'ai noté par exemple sa phrase « Le musée est un des lieux qui donne la plus haute idée de l'homme ».
Mais oui, absolument. Et voilà, donc je me réjouis du succès des expositions. Je souhaiterais encore en faire quelques-unes moi-même. Je crois qu'il faudrait ne pas en multiplier le nombre, car à l'heure actuelle, le phénomène est contre-productif, je me répète. Mais je crois surtout qu'il faut mieux s'interroger sur cette collaboration, sur ce lien entre le musée et l'exposition. Les deux choses sont liées et je crois qu'aujourd'hui, on a un peu trop coupé. Je prends l'exemple, j'ai rien contre cette institution qui au contraire fonctionne très bien. Je parle du Beaubourg Metz, c'est un lieu merveilleux, le second Beaubourg à Metz. Eh bien, si vous voulez, c'est un musée qui est constitué des collections de Beaubourg. Au fond, c'est une exposition, c'est pas un musée. Un musée doit avoir ses propres collections.
Il y a une grande collection d'art moderne à Beaubourg.
Je crois que c'est le musée d'art moderne. Une immense collection, donc je comprends très bien qu'une partie de cette collection soit montrée à Metz. Mais ce n'est pas un musée au sens propre du terme. Oui. Un musée, autrefois, quand ça se crée, se constituait avec des collections qu'il recevait en don, qu'il achetait, et avec une mentalité, si j'ose dire, différente de celle d'une exposition. Donc ça développe là aussi un autre concept de l'œuvre d'art.
Oui, je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre à Metz pour...
C'est une grande réussite. Oui. Mais ça n'est pas un musée au sens traditionnel du terme. Donc on crée aujourd'hui des institutions, ce sera le cas de Lens aussi, on crée des institutions qui n'ont pas de propre collection.
Mais peut-être l'idée est justement de promouvoir l'attrait des musées, de leur donner un aspect différent pour attirer plus de public.
Je crois qu'en effet, si les visiteurs de Metz se rendent ensuite à Beaubourg pour voir les collections permanentes de Beaubourg, la bataille est gagnée. S'ils se contentent de Metz ou de Lens, voilà.
Oui, le résultat serait moins satisfaisant, en effet, oui. Écoutez, est-ce que vous permettez qu'on élargisse un peu cette question entre donc, les expositions face au musée, aux notions de la culture ? Parce que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure avec la notion du sacré, l'origine de la culture. Dans le même concept, il y a le culte, la culture qui devient culturelle. Donc je voudrais avoir votre avis sur ces trois concepts.
Tous ces mots, j'aimerais beaucoup les remplacer par le mot éducation. Je crois qu'en fait, la priorité devrait être donnée à l'éducation. Et je crois que cette éducation, quand on apprend à lire, pour revenir à l'exemple classique, on pleure à chaudes larmes, et c'est normal. Tout ça, l'éducation, c'est un effort. Et l'éducation, c'est un effort, mais dont on bénéficie des résultats pour toute la vie. Donc, personnellement, culture, tout ce que vous voudrez, ce qui, moi, m'importe surtout, c'est que chacun ait accès à la culture et à l'éducation. Et que cet accès à l'éducation ne soit pas, à l'heure actuelle, le fait d'une élite. À l'heure actuelle, dans les musées, puisque vous en parliez, dans les expositions, vous ne voyez que des gens dont les parents ont emmené leurs enfants dans les musées. Et ces gens que vous voyez dans les expositions en grand nombre sont des gens qui n'ont pas découvert les expositions et les musées par l'école, mais par leurs parents. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Et c'est pour ça que je trouve que la chose essentielle, c'est l'éducation. Et que cette éducation, aujourd'hui, elle devrait être considérée par tous comme la bataille essentielle pour assurer à nos contemporains une vie heureuse.
Oui, la même chose pour la notion plus générale de l'art ou le beau.
Le beau.
Ou les images.
Ce que nous avons dit, ça vaut aussi pour la musique. Je dois dire que l'école devrait aussi ouvrir les oreilles de nos jeunes, ouvrir leurs oreilles à Mozart et à Beethoven. Et ça aussi, si avant 20 ans, on n'a pas eu cette chance de découvrir ces grands génies, la cause est perdue.
Il me semble que la musique classique est en train de devenir presque un tout petit peu à la mode.
Vous croyez ? Tant mieux.
Il y a des frémissements comme
vous
ça, il me semble.
Je l'espère.
Oui. Mais pour revenir au musée, puisqu'il s'agit quand même d'art et d'images, de tableaux, on a toujours essayé donc de favoriser les collections où il est question de beauté ou de beau. Mais aujourd'hui, avec quoi on remplit les musées? Quelles sont les directions, les orientations pour faire des nouvelles acquisitions dans les musées?
Oh ben ça, c'est,
disons
ça,
dans
c'est...
les musées d'art, évidemment.
Mais oui, non, mais alors là, il ne faut pas se décourager. Si vous voulez, le goût change et des artistes qui n'étaient pas à la mode le deviennent. Et c'est le rôle des musées d'anticiper ce goût qui change et de découvrir avant qu'il soit trop tard ces artistes qu'on va aimer. Je prends l'exemple qu'on a cité tout à l'heure de Georges Latour, artiste complètement tombé dans l'oubli. Les musées qui ont eu l'intelligence d'acheter Georges Latour avant qu'il soit à la mode ont fait faire à l'État d'énormes économies, évidemment. Donc là, je crois que les musées doivent continuer d'acquérir, et comme on le dit régulièrement, un musée qui n'achète pas est un musée qui meurt, ça j'en suis convaincu. Puis il y a tout un champ que nous n'avons pas du tout abordé, c'est celui de l'art contemporain. Et on voit bien que l'attraction de l'art contemporain sur les jeunes est considérable. Il faut espérer qu'à travers l'art contemporain, l'art moderne et contemporain, il faut espérer que ces jeunes iront vers l'art ancien. Ce qui se fera, je pense, très régulièrement. Je voudrais dire à ce propos qu'on entend trop souvent dire que nous sommes dans une période de grande escroquerie, que tout ça, c'est des opérations commerciales, des marchands un peu scrupuleux, des collectionneurs aveugles et dupes, des gogos, si vous voulez, d'artistes eux-mêmes tout à fait cyniques, etc., etc. Je n'ai pas du tout une vision aussi pessimiste sur la situation. Que le déchet dans l'art contemporain soit considérable, c'est inévitable. Il est considérable, il a toujours été considérable. Mais moi, je suis pour ma part absolument convaincu que ces collectionneurs ne sont pas tous des gogos, mais que certains croient profondément à ce qu'ils achètent, que les marchands sont des défenseurs de ces artistes avec une parfaite sincérité, et que ces milliers de jeunes qui vont à la FIAC, qui vont à la Documenta à Cassel, ou qui vont à la Biennale de Venise, éprouvent un véritable plaisir devant certaines de ces œuvres d'art, et que par conséquent, tout cela participe entièrement de ce qu'on appelle l'art, et que le Louvre sait très bien, mais que l'art contemporain sait très bien, et que l'art contemporain au Louvre sait très bien.
Oui, mais aujourd'hui, on est souvent très loin de la notion du beau,
si,
avec les installations
une...
ou les...
Non, non, la notion du beau a beaucoup changé. On a trouvé, franchement, des tableaux que nous trouvons admirables. La notion du beau est une notion complètement fluctuante, qui varie avec les siècles. On trouve très beaux des tableaux qu'on a trouvés affreux il y a encore un siècle. Et si vous voulez, on est dans une période de dérision, on est dans une période très brutale, très violente, où l'art, en effet, n'hésite pas à montrer les aspects les plus sordides de notre époque, etc., etc. Mais ça participe quand même de l'art. Ça participe quand même de l'art. Et il y a des périodes qui, en effet, ont été plutôt des périodes gaies et joyeuses, où on voyait la vie en rose. D'ailleurs, il faudrait regarder de plus près pour voir si c'est vrai. Je pense une grande partie du XVIIIe siècle français qui a présenté une vie plutôt gaie. Il y a des périodes qui, au contraire, ont montré une réalité terrible. On a trouvé affreux et indéfendable toute une partie de la peinture réaliste du XIXe siècle à cause des sujets populaires qu'on osait représenter. Donc, la notion du beau, moi, très bien, très bien. Chacun a sa notion du beau. Chacun éprouve ses... trouve beau ce qu'il veut. Il n'y a pas de vérité dans la notion du beau. Et je ne suis pas du tout certain qu'on ne trouvera pas très beau des choses que nos contemporains trouvent affreuses. Ce qui compte, c'est qu'elles apportent quelque chose, qu'elles aient quelque chose à dire et qu'elles nous touchent, qu'elles nous émeuvent. En tout cas, je veux simplement dire que le discours anti-art contemporain m'agace profondément. Et je crois qu'il est tout à fait injuste. Il a toujours existé. Il n'est pas nouveau. Il y a toujours eu ces courants-là contre l'impressionnisme, contre le cubisme, toujours. Et bien sûr, je répète, le déchet sans doute plus considérable aujourd'hui qu'il ne l'a été par le passé, pour une raison qu'on peut expliquer, pour une fois on a une explication, c'est qu'autrefois, il y avait des règles. Il fallait savoir sauter 1m80 pour être un peintre. C'est-à-dire qu'il fallait savoir dessiner, il fallait savoir composer, il fallait savoir avoir des notions de perspective, etc. Ces règles n'existent plus, elles ont été mises à bas, elles ont été abattues. Par conséquent, l'absence de règles fait qu'il y a plus d'artistes qu'autrefois. Et comme il y a plus d'artistes, il y en a vraiment beaucoup, il est normal qu'il n'y en ait que très 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 peu, très 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 peu qui émergent. Se battent pour émerger, ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas, ils n'ont pas de chance de... C'est très triste pour eux. Mais je répète, le déchet est énorme, mais je ne suis pas du tout convaincu que la quantité de grands artistes aujourd'hui n'est pas comparable à celle par le passé.
Bien.
Je voudrais simplement dire qu'il faut faire un petit effort. Je crois surtout qu'on est tous d'une génération. C'est très difficile. On est millésimé, comme les vins. Et c'est très, très difficile de porter un jugement serein sur une génération beaucoup plus jeune, donc qui a d'autres ambitions et qui, par conséquent, réagit automatiquement contre la génération précédente. Et comme on est soi-même attaché à la génération précédente, la réaction contre cette génération ne peut que déranger, troubler, etc. Non, je crois simplement qu'il faut se dire que... Moi, je ne crois pas que l'art soit mort, c'est tout. L'art prend d'autres formes, il s'exprime d'une manière différente, qu'on peut parfois trouver contestable, c'est certain. Il y a des développements, il y a des pas en avant, il y a des choses qui ne survivront pas longtemps. Mais il y a une vitalité, au contraire, qui me paraît tout à fait évidente et internationale. Et voilà.
Fiche osée, vous poser une dernière question, j'espère qu'elle vous plaira. Pierre Rosenberg, est-ce que le musée peut-il rendre le monde meilleur ?
Ah ça, ma réponse est simple, oui, sans hésitation, et absolument, absolument, absolument.
Donc, on invite tous nos auditeurs de retrouver cette joie, cette émotion, peut-être parfois même avec un rapprochement au sacré. Moi, j'aime bien cette notion de sacré qui existe
l'évasion.
Dans les...
L'évasion, moi je préfère l'évasion, voilà, le rêve donc... et l'évasion.
Que ce soit pour l'évasion, pour le sacré ou pour la beauté des tableaux, de venir peut-être en masse, pourquoi pas, dans les salles de musée, de ne pas laisser les œuvres et les chefs-d'œuvre dans leur triste solitude. Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous. Merci à vous.